Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler qualité de l'eau. Vous savez que c'est une préoccupation sur notre territoire. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on va parler des résidences médicalisées du CHU qui viennent de s'offrir une nouvelle vitrine, un site internet dédié. Et pour en parler, c'est Angèle Couret qui est directrice de la coordination médico-sociale. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler donc de ces résidences médicalisées du CHU, donc, et qui ont un site internet, comme je le disais. Alors peut-être rappeler ce qu'est une résidence médicalisée, qu'est-ce qu'on entend par là ?
Oui. Alors on a voulu parler de résidence médicalisée pour aller à la fois parler des EHPAD et des USLD, donc acronyme qui est moins connu, donc c'est les unités de soins de longue durée. Ce qui nous permet d'englober en fait à la fois EHPAD et USLD, puisque le CHU de Poitiers dispose de 4 EHPAD et de 5 USLD répartis donc sur les différents sites du CHU de Poitiers, donc Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon et Lusignan.
Et qu'est-ce qui a motivé le CHU de créer un site internet dédié à ces résidences ?
Alors, c'est vrai, quand on parle du CHU de Poitiers, on ne pense pas forcément à des EHPAD, des résidences médicalisées. La vocation première d'un CHU, ce n'est pas le secteur médico-social. Mais ces résidences en fait permettent d'accueillir plus de 800 résidents sur l'ensemble du département. Donc c'est un secteur très large et ça nous semblait important à la fois de se faire connaître auprès du grand public, aussi auprès de nos professionnels qui ne savent pas toujours qu'on a ce type d'accompagnement, et puis de faire connaître en fait tout le bel accompagnement qu'on fait au sein de nos EHPAD, au sein de nos USLD, à la fois auprès du grand public, mais aussi également auprès des proches des résidents.
Alors c'est intéressant, c'est différentes cibles en fait. À la fois j'entends des professionnels qui voudraient peut-être s'investir dans ces résidences, et à la fois le public concerné et l'entourage.
Oui, tout à fait. L'idée sur ce site internet, c'est qu'on peut trouver des infos très pratiques, où elles se trouvent, quel type d'accueil peut être proposé, de l'hébergement permanent, de l'hébergement temporaire, de l'accueil d'urgence, de l'accompagnement de personnes présentant la maladie d'Alzheimer. Donc ce type de choses. Et puis des modalités pratico-pratiques, comment je peux faire rentrer mon proche, quels sont les tarifs. Donc il y a ce volet-là. Et puis il y a également pour les proches qui sont déjà, dont la personne âgée est déjà dans l'établissement, des infos sur les activités, les menus et toutes les sorties qui peuvent se faire. Donc plus cette fois vers les personnes qui sont déjà accompagnées.
Alors au niveau national, il y a eu des scandales autour des maisons de retraite, ces EHPAD. Est-ce que c'était aussi important de redorer un peu l'image qu'on a de ces résidences ?
Alors oui, forcément. Ça a vocation à montrer ce qu'on fait dans nos établissements. Et on fait de belles choses. Les EHPAD et USLD du CHU de Poitiers ont l'avantage d'avoir une proximité avec tout le secteur sanitaire et donc un accompagnement à la santé des résidents qui est très privilégié, je dirais. Mais ce n'est pas l'unique chose qu'on fait dans nos EHPAD et USLD. Il y a beaucoup de développement des approches non médicamenteuses, beaucoup de choses autour de l'innovation, d'ouverture sur l'extérieur. Et c'est aussi ça qu'on a voulu mettre en avant grâce à ce site internet.
Peut-être d'un service public par rapport à des services privés qui ont pu être pointés du doigt ?
Alors oui, même si je pense qu'il y a sûrement
des très belles choses aussi dans le privé.
Des très belles choses qui se passent dans le privé. Tous les EHPAD publics de la Vienne ne sont pas rattachés au CHU, même si c'est une très grosse partie. Et oui, je pense qu'il y a des valeurs très importantes à transmettre de ce qui se fait dans le secteur public.
Alors, vous parliez d'approche non médicamenteuse. Est-ce qu'on peut un petit peu s'arrêter là-dessus ? Quelles sont les différentes méthodes que vous mettez au point, que vous abordez dans ces résidences ?
Alors, il y a deux grandes thématiques qui sont développées. Donc, il y a la méthode Montessori qui se met en place dans les différents EHPAD et USLD.
Qui est connue plutôt pour les enfants, normalement.
Exactement. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais pas particulièrement pour les personnes âgées. C'est exactement la même philosophie, le même concept. On part plutôt des capacités de la personne, de ses besoins, de ses envies, et non pas de ce que nous, on va faire à la place d'eux, décider. Voilà. Donc, en fait, on forme les équipes au fur et à mesure à cette démarche, qui est vraiment un... Ça nécessite un changement de positionnement. Et donc, on forme beaucoup de professionnels au fur et à mesure pour mettre en place cette nouvelle accompagnement.
Donc, Montessori, c'est l'une des méthodes. Et puis sinon, il y a d'autres choses qui sont développées.
Oui, on met en place aussi la méthode Snoseilen, qui est plus connue habituellement pour le secteur des personnes en situation de handicap, mais qui fonctionne très bien également avec les personnes âgées. Donc, soit c'est des salles qui sont entièrement dédiées, soit c'est des chariots. Et en fait, le Snoseilen, c'est un accompagnement multisensoriel. Donc, on travaille sur le visuel, le sonore, le toucher, qui permet de, à la fois, une sensation de bien-être et de stimuler également la personne âgée. On a équipé notamment le site de Châtellerault, dernièrement, d'une très belle salle Snoseilen.
Et quels sont les retours du côté du personnel? Vous disiez que vous les formiez à ces méthodes. Est-ce que ça crée un changement peut-être dans la relation qu'ils ont aux patients, aux résidents?
Oui, alors on a beaucoup de professionnels qui sont très volontaires à se former à ces nouveaux accompagnements, puisque en fait ça enrichit aussi voilà, leur quotidien et leur relation avec les résidents. Donc c'est pour eux une corde de plus à leur arc, je dirais. Et puis, ils peuvent voir aussi les résidents sous une autre facette. Et donc, ça permet toujours de développer encore plus le relationnel avec le résident.
Et justement, du côté des résidents, quels sont les retours? Est-ce que ça permet de diminuer peut-être justement la partie médicamenteuse de l'accompagnement?
Alors, il faut qu'on s'améliore peut-être. C'est difficile d'avoir des évaluations scientifiques. Après, le ressenti des proches et des équipes, c'est que c'est des accompagnements très bénéfiques pour les résidents, qu'ils arrivent à le dire ou alors en tout cas à le faire paraître s'ils n'ont pas la capacité de s'exprimer.
Vous parliez d'innovation. Est-ce qu'il y a encore des projets, des choses que vous voudriez mettre en avant sur ces différentes résidences médicalisées?
Alors oui, on développe aussi d'autres choses. On a mis en place les lampes Aladdin, qui est un dispositif qui s'installe dans les chambres, qui permet à la fois de détecter les chutes si jamais elle survient, et même de prévenir la chute, puisque en fait, il y a un faisceau lumineux qui s'allume dans la chambre si le résident se lève la nuit, par exemple, pour soit des déambulations, soit se rendre aux toilettes. Donc, ça permet à la fois d'avertir le personnel et de prévenir. Et puis, en termes d'innovation, on vient également d'équiper une partie des sites de casques de réalité virtuelle, avec des retours extrêmement positifs, même sur un temps d'utilisation assez court, qui sont utilisés à la fois pendant des soins et également en prévention pour apaiser en fait les résidents en fin de journée ou ce type de choses. On a des retours très très positifs.
Et alors là, donc, ça fait un petit peu la promotion de tous ces établissements. Est-ce qu'il y a de la place dans ces établissements? Parce que c'est vrai que c'est une question que les gens se posent. Souvent, il y a des listes d'attente.
Alors, ça dépend des sites. Ça dépend du type d'accompagnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a différentes unités et différentes offres d'accompagnement. Notamment des unités sécurisées, par exemple. Donc là, on a peu de place souvent dans les unités sécurisées. On a des listes d'attente très longues sur les sites de Châtellerault et Loudun, et plus fréquemment de la place sur Lusignan et Montmorillon. Mais de toute façon, la démarche, c'est toujours de passer via le site Via Trajectoire pour en fait que les demandes arrivent. Et puis nous, après, on a des commissions d'admission qui permettent de répondre... d'orienter en fait et de répondre au plus proche à la demande.
Parce que c'est vrai que la politique aujourd'hui, c'est de le plus possible laisser les gens chez eux, mais en vrai, c'est pas possible pour tout le monde, c'est ça, hein?
Non, malheureusement, c'est pas toujours possible. Après, c'est pas toujours un souhait aussi, parce que l'établissement, ça permet aussi la socialisation, ça permet d'offrir des choses qui sont pas toujours possibles à domicile. Donc la politique, c'est plutôt le maintien à domicile, et c'est deux choses qui sont complémentaires en fait.
Un grand merci Angèle Couret, directrice de la coordination médico-sociale donc pour les résidences médicalisées du CHU de Poitiers. Donc vous retrouvez leur tout nouveau site internet dédié, peut-être dire le nom du site.
EHPAD.chu@poitiers.fr, j'ai un doute.
C'est pas très grave. On retrouvera en tout cas sur les EHPAD CHU Poitiers, vous retrouverez le site internet. Merci beaucoup Angèle Couret donc d'être venue nous parler de tout ce qui se fait de nouveau et de bien dans ces résidences.
Merci à vous.
On continue avec que de la musique locale aujourd'hui. Et là, c'est We Want Chet. C'était au départ un duo en 2021 et c'est devenu un octet avec l'arrivée de la chanteuse Léa Gracie. Ils ont sorti leur premier album cette année. Voici le titre Daybreak.
Entendu ce qu'a dit la radio ?
Un peu de musique.
Bien sûr.
Ce sont les meilleurs dans leur spécialité.
Et on accueille Anaïs Chauvet qui est responsable du service ressources chez Eau-de-Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour des nouveaux engagements que vous venez de renouveler pour la qualité de l'eau. Ce sont des contrats territoriaux. Le programme s'appelle Ressources. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. C'est vrai que la qualité de l'eau, on a eu quelques alertes dans la Vienne. Et le travail que vous faites, vous, c'est justement pour éviter d'arriver à ça. C'est en amont que vous travaillez. Hein. Le programme Ressources, c'est ça ?
Oui, oui, en effet, c'est exactement ça. Le programme Ressources, c'est un programme de reconquête de la qualité de l'eau. Et donc, en fait, le syndicat Eau-de-Vienne a adhéré à ce programme-là. Donc, c'est un programme qui est à l'échelle régionale. Et donc, l'objectif pour le syndicat, comme pour toute collectivité qui adhère, c'est de reconquérir la qualité de l'eau, donc en termes de pollution diffuse, c'est-à-dire les nitrates et les pesticides qu'on peut retrouver dans certains captages de la région Nouvelle-Aquitaine et pour le syndicat à l'échelle de la Vienne.
Donc là, vous venez d'en signer trois nouveaux. Oui. Quel territoire ils concernent ?
Alors effectivement, il y a donc trois territoires qui sont concernés par ces programmes ressources. Donc le territoire de Fontaine-de-Son, au nord du département de la Vienne, le secteur de La Gélière et Trébourssac, dans un secteur de Lusignan, et dans le sud de la Vienne, vers Availle-Limousine, le secteur de Détilly-Boisse.
Et en quoi ça consiste? Est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs, qualitatifs qui sont fixés?
Alors oui, effectivement, le programme ressources a pour objectif de reconquérir la qualité de l'eau, mais un secteur local. Et donc l'objectif, c'est avec les acteurs du territoire, donc agriculteurs, communes, tout ce qui est association environnementale, c'est de mettre en place des enjeux de protection de la ressource qui sont adaptés au secteur. Donc ce sont des enjeux qui sont aussi bien sur le secteur agricole, mais aussi en lien avec la qualité de l'eau sur les territoires.
Et justement, avec qui vous signez ces contrats? Quels sont les acteurs qui sont dans la démarche?
Oui, les acteurs sur la démarche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les communes, mais aussi tout ce qui est organisme professionnel agricole, tout ce qui est négociant agricole, mais aussi les agriculteurs des territoires.
Et alors, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont listées dans ces contrats?
Oui, effectivement, en fonction de la thématique et du secteur, selon les pratiques agricoles principalement qui sont effectuées, on a des zones qui sont en polyculture élevage ou en grande culture, eh bien, il va y avoir des thématiques à atteindre assez particulières. Mais après, ce programme-là a des thématiques à peu près générales sur, par exemple, l'utilisation de couverts végétaux ou la mise en œuvre de prairies sur les territoires à forte vulnérabilité, où on peut y avoir un transfert des polluants, donc pesticides et nitrates, dans l'eau qu'on peut retrouver dans les nappes phréatiques.
On l'entend, sur ces territoires-là, ce sont principalement les agriculteurs qui sont à même d'améliorer cette qualité de l'eau?
Oui, effectivement, il y a un accompagnement qu'on fait, nous, au Devienne, auprès de ces exploitants sur les territoires. L'objectif, c'est de trouver, en lien avec les pratiques qu'ils ont déjà actuellement, un consensus pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques qui soient en lien avec la protection de la ressource en eau. Donc l'idée, c'est de trouver des choses à l'exploitation et des solutions qui soient effectuables à l'exploitation.
Et ils reçoivent des aides aussi pour mettre en place toutes ces méthodes?
Ah oui, effectivement, le programme ressources en soi, c'est des enveloppes budgétaires qui sont mises en œuvre sur les territoires. Il peut y avoir des aides directes qui peuvent être mises en œuvre, comme par exemple les mesures agro-environnementales ou les PSE. Voilà, c'est des aides qui permettent d'améliorer au quotidien les pratiques agricoles.
Et donc sur les trois territoires que vous nous avez cités, est-ce qu'il y a des spécificités aussi plus locales ou ça reste des choses assez générales?
Alors non, effectivement, il y a des spécificités à peu près locales, comme on parlait tout à l'heure de la qualité de l'eau. Mais effectivement, sur ces secteurs-là, il y a des pratiques bien spécifiques pour pouvoir cibler justement les pratiques qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau en fonction des molécules qu'on peut retrouver dans les eaux.
Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que l'eau qui est captée là-bas est de bonne qualité? Est-ce que c'est plutôt une inquiétude sur le long terme ou est-ce que dès aujourd'hui, il y a un peu déjà des inquiétudes?
Alors, ce que j'ai pas souligné tout à l'heure, c'est que sur les programmes ressources, on est sur des captages qui sont déjà de base avec une eau dégradée. Donc l'objectif, c'est à long terme de reconquérir cette qualité de l'eau, mais on se fixe des enjeux et des objectifs à atteindre en 3 ou 6 ans. Donc effectivement, ces programmes ressources là, c'est difficilement atteignable au bout de 3 ou 6 ans, mais l'intérêt, c'est de mettre en œuvre des actions de reconquête pour qu'à long terme, on ait des objectifs qui soient vus directement sur la qualité de l'eau.
Et comment vous impliquez aussi, alors on entend bien les agriculteurs, mais les collectivités ou les habitants dans cette démarche de protection?
Alors on est un nombre de 7 dans le service, et donc l'objectif de chacun d'entre nous, c'est d'aller sur les territoires. Et donc il y a des acteurs qu'on se répartit. Sur la partie agricole, il y a un chargé de projet agricole qui sensibilise les exploitants. Et sur la partie protection de la ressource, il y a une chargée de protection de la ressource en eau qui sensibilise le grand public. Et il y a aussi une partie de sensibilisation auprès des écoles.
Donc là, ce sont des nouveaux contrats. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on arrive déjà à évaluer s'ils ont une efficacité concrète sur la qualité?
Alors effectivement, il y a sur, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre de ces actions, elles peuvent se voir à plus ou moins long terme en fonction du type d'environnement qu'on a sur les territoires et les captages d'eau potable. Donc il y en a où on a déjà au bout d'un programme d'action ressources, on voit déjà des améliorations de la qualité de l'eau. Pour certains, ça demande un tout petit peu plus de temps en fonction de l'environnement du territoire.
Et si au bout de 3 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution, est-ce qu'il y a des mesures d'ajustement qui sont prévues ?
Oui, effectivement. Donc, l'intérêt, c'est de créer en fait une impulsion, une mise en œuvre des actions et de fédérer en fait l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, si au bout de 3 ans, on voit que il y a des acteurs qui ont fédéré au secteur, l'intérêt, c'est de continuer cette mise en œuvre et de, si besoin, réajuster la mise en œuvre des actions et du suivi des objectifs des contrats.
Voilà. Donc là, on voit que c'est très local, mais à la fois, ça s'inscrit... l'eau, on sait que ce n'est pas vraiment dans un secteur précis. Elle vient d'ailleurs, elle repart plus loin. Donc, vous vous inscrivez aussi avec d'autres agences pour préserver cette ressource ?
Alors oui, effectivement, Eau-de-Vie n'est pas le seul dans la mise en œuvre de ces programmes ressources. On est plusieurs partenaires techniques et financiers. Donc, on a les services de l'État qui nous aident à construire ces programmes, mais aussi l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine qui financent aussi en partie ces programmes-là de reconquête de la qualité de l'eau.
Et donc là, vous investissez à chaque fois, c'est à peu près 200 000 euros pour chaque contrat.
Oui, c'est à peu près ça, oui.
Et donc ça, c'est l'argent de ceux qui payent l'eau. Enfin, c'est ce qu'on paye dans nos contrats d'eau.
Oui, c'est des redevances. Oui, effectivement, la mise en œuvre, elle est due aux redevances qui sont effectuées à l'échelle des bassins hydrographiques des territoires.
Et le but, c'est d'en avoir un petit peu partout sur le territoire.
Alors non,
pas
effectivement
forcément.
Non. La mise en œuvre des programmes ressources s'effectue que sur des captages qui ont une pollution avérée. Donc le syndicat, nous, on s'occupe de 15 captages qui sont ces programmes ressources là. Il faut savoir que cette mise en œuvre là, elle n'est faite que sur des secteurs où les pollutions ont un impact significatif sur l'eau brute, et on constate qu'il y a des concentrations qui sont au-dessus des normes de qualité de l'eau.
Donc ça veut dire que après vous la traitez, mais l'objectif, ce serait de pas avoir à la traiter ou beaucoup moins, c'est ça?
Oui, l'idée, c'est d'avoir de base une eau naturellement potable. Donc ça veut dire que la mise en œuvre des actions doit s'effectuer dans le temps pour qu'il y ait un impact significatif et que finalement dans 20 ou 30 ans on puisse avoir une eau de qualité avant même de la potabiliser, pour éviter effectivement d'avoir un coût sur l'eau assez conséquent derrière.
Et c'est ça l'échelle 20-30 ans, c'est l'objectif, ce serait ça?
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement l'environnement a une réponse un petit peu différente, la nature a une réponse un peu différente, et donc ça veut dire que les nappes d'eau sont impactées un peu différemment en fonction de la vulnérabilité des territoires. Donc effectivement, la mise en œuvre de la qualité de l'eau prend du temps.
Et est-ce qu'il y a des polluants principaux que vous retrouvez sur ces 3 captages-là ?
Alors oui, effectivement, en fonction des pratiques, on a un territoire, le secteur de la Vienne a quand même des pratiques qui s'orientent vers la céréaliculture selon les territoires. Et donc, on retrouve des pesticides, notamment herbicides, notamment qu'on utilise sur les cultures de printemps.
Merci beaucoup Anaïs Chauvet. Donc, vous êtes responsable du service ressources chez Eau-de-Vienne. Et donc, vous veniez nous parler de ces 3 nouveaux contrats ressources pour essayer d'améliorer cette qualité de l'eau au niveau des captages. Merci beaucoup d'être venu dans Séquence Midi. Demain, c'est le Café de la Presse à 12h30 et on parlera des violences sexistes et sexuelles dans le cadre du mois Poitiers se mobilise. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Avec pas mal de propositions aujourd'hui, déjà dans le cadre des rencontres Michel Foucault. Sachez qu'on y sera demain à Radio Pulsar avec des étudiantes et étudiants qui vont réaliser une émission de radio en direct au TAP. Donc rendez-vous à 13h demain. Aujourd'hui, il y a plusieurs propositions. Une visite commentée, c'est au musée Sainte-Croix. Il y a aussi une conférence à 14h au TAP Auditorium de 2 professionnels du soin, Alexia Delbreil et Mélanie Voyer, qui vont parler de leur engagement auprès des femmes victimes de violences à la maison Freya et sur le travail aussi du centre de psychotraumatologie du CHU de Poitiers pour permettre d'envisager des solutions pour se reconstruire après des traumatismes. Donc 14h au TAP Auditorium, l'entrée est gratuite. Et une autre conférence au TAP, c'est à 16h qui présentera l'engagement de Daniel Defer, sociologue et compagnon de Michel Foucault, avec qui il fonde le groupe d'information sur les prisons dans les années 70. Puis au décès de Foucault, l'association aide afin d'aider les victimes du sida. Donc cette conférence sera l'occasion de lui rendre hommage et de dresser un panorama des actions de l'association AIDS en faveur des victimes du sida. L'entrée là aussi est gratuite. Et puis il y aura le documentaire Dans nos prisons, histoire d'une lutte, pour revenir sur cet engagement de Foucault sur les prisons. La projection est prévue à 18h30 à l'espace Mendès France et sera suivie d'une discussion sur le sujet. Espace Matin, vous le disiez, c'est la journée mondiale du diabète aujourd'hui, mais c'est aussi la journée d'information et de dépistage de l'insuffisance cardiaque. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview du professeur Lequeux dans Séquence Midi hier. Donc le CHU de Poitiers organise une journée de dépistage dans le hall d'accueil. C'est toute la journée jusqu'à 16h. Vous pouvez vous dépister avec un simple une petite goutte de sang et vous pourrez vous poser toutes vos questions sur le sujet et sur le diabète. Il y a aussi donc des informations au CHU. C'est jusqu'à 18h sur différents sites du CHU pour là aussi réaliser un dépistage gratuit. Sur Pulsar, à 17h, votre émission À ta santé sur la dénutrition et la malnutrition des personnes précaires. À 18h, c'est le Labo des savoirs. À 19h, votre nouvelle émission politique Poitou Pop. Et à 20h, Metal Fury. Merci Yann pour la réalisation technique. Musique locale, je vous le disais, voici Or Magician avec Balthazar Day. Et c'est un extrait de leur spectacle Au-delà de l'espace et du temps. Bon après-midi, à demain.
Docteur et Rasseri Dinaï, tout Kirina, Andira Sousa, interloqué comme le corps d'un foulard. Ennemi gang, charte ma paix, boule boule, t'en as rappeur, un chef, wow.